toute liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un acteur incontournable du M5-RFP. M5-RFP, c'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques. Il est aussi aujourd'hui un grand soutien à la transition. Et on va ensemble interroger la marche de la transition avec lui. Notre invité, vous l'aurez compris, est Jamil Bitar. Jamil Bitar, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation.
Le plaisir est partagé.
Vous avez été un acteur majeur de la lutte du M5-RFP. Aujourd'hui, grand soutien de la transition. Est-ce que aujourd'hui vous allez...
Et surtout un homme libre.
Libre. Donc, est-ce que vous allez... C'est justement pour ça qu'on va vous demander. Est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui toute la vérité sans porter de gants?
Sans détour. S'il faut des gants, je les porterai.
Mais jamais plus tard. Oui, on a vu rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va interroger vraiment la transition, la mode de la transition, l'avenir de la transition. Ils sont nombreux, les Maliens qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a un gouvernement? Où est le gouvernement? Ils se disent clairement qu'aujourd'hui, ils ont comme l'impression que le pays est bloqué. Je vous pose la question, où est le gouvernement?
Le gouvernement, il est présent. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de coaching peut-être, d'activité sur le terrain. Parce que quand on parle de gouvernement, certainement, on parle surtout de l'exécutif. En bon terme, c'est des gens qui doivent être sur le terrain, au four et au moulin. Et malheureusement, le constat souvent est amer. Il y a certainement des ministres bons, des ministres excellents, des ministres moins bons et des ministres qui aujourd'hui ne jouent pas le rôle. Okay. Et c'est un peu ça. Moi, je pense que la nature a horreur du vide et le vide aujourd'hui, nous sommes dans une transition et c'est non seulement une course de vitesse, mais également une course de fond en même temps. Okay. Dans cette course de vitesse, je pense que les attentes de beaucoup de Maliens ne sont pas comblées dans bon nombre de secteurs d'activité. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à dire quelque part, et c'est l'opinion générale aujourd'hui, tant bien que mal, notre armée aujourd'hui monte en puissance, mais quelque part dans d'autres secteurs d'activité, les attentes ne sont pas comblées.
On peut dire que si l'armée monte en puissance, les autres secteurs souffrent. Et aujourd'hui, si vous devez noter le gouvernement sur son bilan déjà mis parcours, qu'est-ce que vous direz? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, d'abord, de M5, de l'action, du bilan du gouvernement, de votre gouvernement?
J'ai dit, il y a beaucoup de réussite. Okay. Et par contre, également, j'ai dit, peut mieux faire. Et il y a des secteurs d'activité où, franchement, compte tenu de l'environnement, compte tenu de beaucoup de pression que nous avions subi entre autres, et les attentes n'ont pas été comblées. Et le début de la rectification n'a pas été facile. Nous avions eu le Covid, nous avions également eu cet embargo qui ne disait pas son nom, et nous avions eu vraiment la pression de la communauté internationale. À cela, il y a quand même beaucoup de mouvements. Il y a eu une migration également de l'insécurité à un moment vers le centre. Donc tout cela était des facteurs en tout cas qui pouvaient déstabiliser un peu l'activité gouvernementale.
Ok, maintenant est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'il faut, puisque vous dites qu'il y a des secteurs en souffrance, qu'est-ce qu'il faut pour imprimer une nouvelle dynamique à l'action du gouvernement? Est-ce qu'il faut aller à un remaniement ministériel ou bien il faut rester en l'état où on ne connaît même pas le nom de beaucoup de ministres?
Tout simplement,
ils ne sont pas efficaces.
Je vais le répéter une énième fois. Oui. Le gouvernement a besoin aussi aujourd'hui de 109. Et il faut un remaniement. Okay. Un remaniement, ce n'est pas parce que les gens sont défaillants, okay. Ce n'est pas parce que certains qualifieraient de médiocre ou de quoi que ce soit, mm-hmm. Mais pour moi, il y a des limites. Okay. Et ces limites, dans certains secteurs d'activité, mm-hmm. Il faut du renouveau, okay. Il faut booster. Aujourd'hui, en plus de ce que notre armée est en train de réaliser, mm-hmm. Si on parle de l'armée, on parle du gouvernement, mm-hmm. Parce que la défense est sous la tutelle quand même, mm-hmm. du chef du gouvernement. Mm-hmm. Donc ça veut dire que c'est le bilan du gouvernement. Okay. Maintenant, les réformes en cours, institutionnelles et politiques, également, tardent à se mettre en place, compte tenu de beaucoup de facteurs. Mm-hmm. Moi, je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas se leurrer, il faut du 109. Et ce 109, les Maliens attendent, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait, je dirais, une relance de notre économie nationale. Okay. Cela va permettre d'amoindrir peut-être la crise et les secousses que nous vivons aujourd'hui.
Ok. Aujourd'hui, ils sont nombreux aussi, certaines voix s'élèvent qui demandent le départ de l'aménagement. On a vu des images circuler, vous aussi, vous demandez le départ de l'aménagement. Vous étiez en première ligne pour demander le départ de Barkhane. Et aujourd'hui, vous êtes aussi en première ligne pour demander le départ de l'aménagement, la force au Niger, au Mali. Pour vous, qu'est-ce que ça peut changer dans la donne sécuritaire, dans le contexte sécuritaire malien?
Je vous remercie et je voudrais juste faire un petit rappel. Cette mission onusienne, elle a échoué. Et quand on échoue, on en tire les conséquences. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, cette mission est truffée de Français. Ça veut dire quelque part que Barkhane est parti, mais une partie de Barkhane est restée. Et au niveau des décisions, nous savons tous qu'au niveau des Nations Unies, comment les choses se passent. Mieux que cela, cette forte, dite force, disons, de stabilité, d'interposition, mais elle sert à quoi au juste? Quand vous regardez un peu, vous allez convenir avec moi que, au-delà de l'aspect peut-être festif, l'aspect dépense universelle, que cet munissement, elle ne sert pratiquement à rien parce que ils sont venus pour la sécurité des Maliens et nous allons de mal en pire. Et tous les jours que le bon Dieu fait, je ne rentrerai pas dans trop de détails parce que je pense que les Maliens en ont conscience aujourd'hui. Et s'il faut interroger le peuple malien aujourd'hui, je pense que le 8 va l'emporter et ce n'est pas une décision du gouvernement ou une décision de la présidence de la transition, mais c'est le peuple malien qui dit non aujourd'hui, comme nous avions dit non.
Est-ce que c'est le peuple malien ou bien c'est vous, des organisations, peut-être quelques organisations, qui demandent, parce qu'à Gao, à Tombouctou, dans certaines villes, on demande le maintien de l'aménagement. Comment vous comprenez ce décalage?
C'est vous qui le dites, parce que quelque part, ils ont les moyens. Et nous avions tous compris que quand il s'agit de renouveler le mandat de l'aménagement ou quand il s'agit de prononcer leur départ, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de non-dits.
Donc vous avez comme l'impression que l'aménagement peut être peu financé, mais des personnes vont demander son maintien. Vous êtes en train de dire.
Mais c'est son rôle. Qui finance aujourd'hui les terroristes? Qui finance aujourd'hui les djihadistes? Qui les porte assistance? Qui les donne à manger? Mais c'est eux.
Ce sont des accusations graves, Jamil Bita.
Mais moi, je le dis et je m'assure.
Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez?
Mais nous avions plein de preuves parce que, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même ce discrédit que l'aménagement met tout le temps sur le pays, sur le Mali, vous avez vu les rapports successifs. Ces rapports
des Nations Unies
qui ne disent pas leur nom.
C'est les violations des droits humains.
Oui, mais ils ont oublié qu'il y a eu de graves violations que eux, ministres, ont causées que eux, Force Barkhane, ont causé. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est très simple. Ils sont venus pour une mission. Cette mission a échoué. Et ils ne veulent pas partir. Nous, nous les montrons le chemin du retour. Parce que quand vous venez dans un pays, logiquement, pour 2 ans, en 2 ans, vous devez déjà préparer votre plan de retrait. Okay. Et ce plan de retrait n'a jamais existé. Et aujourd'hui, on nous met devant les faits accomplis pour peut-être éventuellement, ce serait la dernière porte de sortie pour eux, pour dire, oui, nous acceptons de partir, mais il nous faut encore du temps pour... Mais tout ça, ça nous sert à quoi? Vous savez, le budget que, disons, l'aménagement dépense annuellement, ça fait pratiquement la moitié du budget national de la République du Mali. Et pendant 10 ans, ça nous a apporté quoi? Des petits jardins pour les ménages par-ci, par-là, un puits par-ci, par-là, et une école, je ne sais pas...
Mais l'aménagement a aussi recruté la main d'œuvre locale quand même. Ils sont nombreux, ces Maliens qui travaillent aussi dans ces instances. Il ne faut pas négliger ça.
Vous savez, les contrats que l'aménagement fait avec les nationaux, c'est des contrats à durée déterminée. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que...
Mais renouvelables, généralement.
Oui, ça va avec le mandat qu'ils ont.
Oui.
Et aujourd'hui, le peuple malien, c'est pas ces quelques milliers d'emplois ou centaines d'emplois qui feront le bonheur du peuple malien. Et ces Maliens ont vécu avant l'aménagement, ils vivront après l'aménagement. Et tous ceux qui nous viennent de l'extérieur, moi je les appelle les enfants gâtés du monde, avec des salaires ronflants, avec des véhicules de haut standing. Et aujourd'hui, la cherté de la vie, les gens en parlent.
Mais
vous savez quelque part qu'il y a eu une simulation à ce niveau. Et ils sont venus enchérir non seulement pas mal de secteurs d'activité, peut-être une bonne affaire pour certains locataires de maisons, et peut-être une bonne affaire pour d'autres, mais vous savez, tout ce qu'ils consomment ne provient pas généralement du pays. C'est importé. Et même quand vous partez vers l'aéroport, ils ont leur supermarché. Et ce supermarché est garni par uniquement des produits provenant d'autres horizons. Même les légumes souvent qui sont consommés ne sont pas des légumes produits par nos maraîchers qui sont ici, ou les maraîchères. Donc moi je dis quelque part que nous n'avons pas grand chose à perdre dans ce truc. Les problèmes maliens ne peuvent être résolus que par des Maliens. Nous en avons conscience aujourd'hui et je pense qu'ils n'ont pas à s'interposer entre les frères. Ils ont juste, on les demande gentiment de plier bagages, de rentrer chez eux et nous en sommes reconnaissants. Et peut-être qu'ils voulaient bien faire, mais ils ne sont pas venus pour les Maliens, ils sont venus pour eux-mêmes.
D'accord, David Wittar, c'est demain, hein, ce grand meeting, cette grande rencontre que vous projetez d'organiser au Palais de la Culture, demain, 14h, le mot d'ordre, demain, ça serait quoi?
C'est demander le départ pur et simple de l'aménagement.
Ce n'est pas la première fois que vous demandez, l'aménagement est resté.
Vous savez...
Qu'est-ce que vous allez faire?
Des 2 ans, nous sommes parvenus à 1 an, donc ils ne sont pas loin de la porte. Et moi, je pense aujourd'hui que tout le monde a conscience. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Nous allons pousser jusqu'à ce qu'ils prennent la porte. Nous l'avons fait avec les forces françaises et nous allons récidiver, s'il le faut, avec l'aménagement pour qu'ils partent. Et après l'aménagement, il y aura d'autres actions que nous allons poser parce que nous venons de notre indépendance si cher. Nous voulons non seulement que nos enfants aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, puissent vivre à la sueur de leur front. Et pour aujourd'hui les donner cette opportunité, moi je pense que nous devons réfléchir par nous-mêmes, nous devons créer les possibilités, mettre un environnement propice en place pour que nous puissions aller vers.
Jamel Bitar, si vous, peut-être vous, Force Vive, hein, vous demandez le départ de la MINUSMA, Force Vive Politique Ensemble, vous demandez le départ de la MINUSMA et que le gouvernement malien vous oppose est net, catégorique, formel, et vous dit non, je veux du maintien de la MINUSMA. Est-ce qu'à ce niveau-là, votre combat n'est pas quelque part négligé par les plus hautes autorités? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel enseignement politique en tirer à ce moment-là?
Non, moi, je dis quelque part que le gouvernement a déjà donné le ton, rappel pour rappel. Aujourd'hui, les résolutions envoyées au niveau des Nations Unies, ce n'est plus la France qui rédige au nom du Mali. Ça, c'est déjà un acquis. Et ailleurs, aujourd'hui, sans se tromper, je pense que le ministre des Affaires étrangères du Mali a été clair par rapport à cette question et sous le leadership du président Assimi et de son premier ministre. Donc moi je dis aujourd'hui que ce n'est pas au gouvernement malien de dire nous ne voulons pas de l'AMNUSMA. C'est le peuple qui choisit. Et moi je pense aujourd'hui que ce n'est pas une minorité de nous imposer. Et ce gouvernement et ce président de la transition émanent d'un mouvement populaire. Et ce mouvement populaire, c'est nous qui l'avons porté. Qu'on le veut ou pas, cette transition est notre transition. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il est de notre devoir aujourd'hui de rester mobilisés afin que justement nous puissions nous retrouver.
Okay. Mais ils sont nombreux hein, aussi, hein, ou ces Maliens qui pensent que vous êtes aussi toujours en train de chercher un bouc émissaire, si ce n'est pas la France, c'est l'AMNUSMA, ce n'est jamais nous la faute. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous entendez hein, ce bruit de sirène-là?
Non.
Est-ce que vous entendez souvent ce discours-là?
Je suis d'accord, oui. Et par rapport à ces voix souvent qui résonnent. Tout est de notre faute. Parce que cette malgouvernance, cette mauvaise gouvernance, nous l'avons tous entretenue. Depuis les entités, depuis que nous n'étions pas là. Mais vous savez, quelque part, on est tous fautifs. Mais ne pas reconnaître ses propres erreurs. Parce que personne ne viendrait construire ce pays à notre place. Et c'est ce qu'on nous a toujours fait comprendre. Comme quoi, il y a le maître de l'autre côté qui dicte la conduite à tenir. Et nous sommes restés dans cela. Et à chaque fois qu'il y a un problème ponctuel, on nous assiste, on nous donne un peu de nourriture pour ne pas mourir, on nous donne un peu de pain pour ne pas mourir, on nous donne un peu d'eau pour ne pas mourir, et on fait du buzz avec ça. Aujourd'hui, nous avions conscience que et il faudrait que nous retrouchions les manches, que nous nous mettons au travail. Seul le travail va libérer le peuple malien. Nous en avons conscience aujourd'hui. C'est pas avec des...
Mais est-ce que justement vous avez l'impression que le peuple malien aujourd'hui est en train de travailler? Est-ce qu'il ne parle plus qu'il ne travaille? Parce qu'on a comme l'impression qu'on parle beaucoup. Mais maintenant, s'il s'agit de travailler, et puis après...
Chaque chose a son temps.
Oui.
Je reviens à la case de départ. Comme vous avez dit que les gens ont l'impression que le gouvernement est statique.
Oui.
Mais quelque part, aujourd'hui, il faut trouver les voies et moyens pour créer. C'est le rôle d'un État, en réalité. Même si nous sommes dans une période d'exception, il faut booster.
Oui.
Et comment booster? Il faut que nous ayons un environnement sain. Oui. Nous avons parlé de la malgouvernance. Nous avons parlé du départ de Ibeka et son régime. Le régime en soi, est-ce que ce régime est parti? Est-ce que les réformes souhaitées par les populations maliennes au niveau, je parle des réformes politiques et institutionnelles, et mieux que cela, et le renouveau dans l'administration malienne, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il faut que l'environnement des affaires puisse être propice. Maintenant, c'est des questions de choix économique. Est-ce que nous voulons, à travers, disons, notre agriculture, booster la production pour aller vers une industrialisation de notre pays? Est-ce que, à travers le commerce ou les services, nous devons mettre l'accent pour développer notre pays, ou est-ce que à partir justement de notre sous-sol qui est vraiment riche, c'est des choix économiques que nous devons faire et éventuellement voir comment dans le cadre d'une participation active de nos populations pour que nous puissions nous mettre au travail et créer de la valeur ajoutée sur place et pouvoir avancer ensemble dans le concert des nations.
D'accord, donc là c'est un grand projet, hein? C'est un grand projet, c'est même un projet de société que vous venez de faire là. Donc ça veut dire tout simplement, si je vous résume, que le tout n'est pas discours, le tout n'est pas slogan révolutionnaire par exemple. Non. Il faut dire aux gens de travailler. Mais il faut créer les conditions de travail.
Mais Mohamed, vous savez, mon discours il n'a jamais varié.
Okay. Vous avez dit à un moment, vous avez un slogan, mettons le Malien au travail. Okay. C'était quand vous étiez candidat. Est-ce que c'est toujours le même?
Mais c'est d'actualité, qu'on le veut ou pas. On dit que le travail anoblit l'homme. Et Dieu a demandé de vivre à la sueur de son front. Mais tout le monde veut de l'argent facile. Tout le monde veut caresser. Tout le monde veut avoir tout aujourd'hui et en même temps. La voiture, la villa, la femme, les enfants, etc., etc. Ça ne peut pas... C'est un processus. Aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous comprenne que ce n'est pas que de la parole, ce n'est pas que de la politique. Vous savez, pour moi, la politique, ce n'est pas un métier. Okay. C'est une question de vision.
Oui.
Et pour être vraiment un bon politique, mm-hmm. il faut avoir non seulement les idées, il faut être à l'avant-garde, mais également, il faut avoir l'esprit de mobilisation des ressources qui vont te permettre justement d'atteindre les objectifs fixés. Maintenant, parler pour parler, moi je ne suis plus dans ça. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, au niveau du gouvernement, tout le monde dit aujourd'hui, ah, j'ai amené mon dossier chez le ministre des Finances, mes ressources ont été, divisées par 10, par 20, etc. Je ne connais même plus le chiffre. Mm-hmm. Et j'ai un très faible budget qui ne me permet même plus de faire mes activités, etc. C'est vrai, nous sommes dans une période de crise. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les ministres de porter les projets, de chercher justement des investisseurs par rapport à leurs projets? Est-ce une interdiction en soi? Est-ce quelque part une incompétence, entre autres? Moi, je pense que quand vous avez un département aujourd'hui, vous êtes le politique de ce département. Vous devez non seulement compter sur le budget national, mais en dehors du budget national, quand vous avez des bons projets que vous portez, vous pouvez aller vers des investisseurs. Et ces investisseurs, ils ont peur de quoi? De la stabilité du pays. Aujourd'hui, le Mali, quel que soit tout ce que l'on va dire, le Mali est bien coté sur le plan international. Il ne manque pas d'investisseurs, mais il faut avoir des projets structurants. Et ces projets structurants, moi je dis quelque part que rester dans le carcan de la loi des finances pour dire, bon, aujourd'hui, on me donne peu, je n'ai même pas mon budget de fonctionnement, donc quelle activité autre je vais mener? Moi, je pense que si un ministre arrive à ce niveau, il doit démissionner.
Okay.
Il doit avoir le courage de démissionner parce qu'il n'est pas apte à le faire. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça.
Oui.
Donc, pour se résumer, j'ai dit quelque part qu'un pays comme le nôtre aujourd'hui ne peut pas vivre de fiscalité.
Okay.
Parce que nous avions compris tous que les pourvoyeurs de recettes aujourd'hui, c'est la douane et les impôts que je félicite et que, au passage, mais...
Après ça, il n'y a pas autre chose.
Pratiquement.
Il y a les mines aussi. Hein?
Les mines. Oui. Et nous avons vu le dernier rapport d'audit qui avait été fait.
Oui.
Nous avions tous compris que, quelque part, il y a des problèmes qu'il faut résoudre.
Oui.
Que l'or du Mali doit briller pour les Maliens, etc. etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop à faire. Et tout est urgent au Mali et nous devons aller vite et bien.
Ok, nous devons aller bien. Maintenant, parlons du chronogramme électoral. La nouvelle constitution, on n'en parle plus. Hein, ça a été reporté, signé. Jusque-là, il n'y a pas de date. Je ne sais pas si vous avez une date pour les Maliens dans les coulisses. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que le gouvernement est prêt pour aller à cette nouvelle réforme constitutionnelle? Qu'est-ce qui bloque?
C'est pas la volonté qui manque.
Qu'est-ce qui manque?
Mais les conditions ne sont
pas réunies. Techniques.
Les conditions ne sont pas réunies.
Okay. Ben, c'est le moment de la carte biométrique. Mais, hein. Certains disaient même que, hein, certains Maliens disaient même que vous avez été
amer parce que
vous n'avez pas eu le marché. Parce que vous avez pensé que, ils disent même hein, que vous avez été dribblé au dernier moment parce qu'on vous avait fait croire que c'était vous. Et au dernier moment, vous avez été dribblé au profit d'une autre structure étrangère.
Les gens
pourront, votre part de vérité.
Les gens pourront dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils estiment.
Je sais même que vous financez quelques activités de certaines organisations. Hein?
Ah oui.
Voilà, de la transition.
Vous pensez?
Non, ce sont des informations.
Par manque de ce marché, je mesure toujours mes 1m80.
Rien n'a changé, le même bitard.
Hein? Le même bitard, le même sourire, à part que j'ai poussé un peu la barre.
Oui.
Et moi, je dis aux gens, c'est plus sérieux que tout ça.
Okay.
Nous ne pouvons pas nous amuser avec notre pays. Okay. La maman, elle souffre. Mm-hmm. Elle était dans l'agonie. On est en train de tout faire aujourd'hui pour essayer de la remettre sur pied.
Okay.
Et remettre sur pied aujourd'hui, moi, je pense que ça nécessite des sacrifices. Ne voyez point la plaie qui saigne, mais plutôt le mal qui est profond. Pour nous aujourd'hui, nous ne venons pas sur un plateau ou devant la masse ou devant le public pour critiquer. Nous sommes porteurs de projets. Nous sommes porteurs d'espoir. Nous disons que nous avons aujourd'hui quand même la chance de pouvoir faire des propositions de sortie de crise. Concernant les cartes biométriques, j'ai fait plein de propositions.
Est-ce que vous avez été entendu? Parce que vous avez été écouté certainement, parce que vous avez fait plusieurs
appels. De toute façon.
Médiatiques. Est-ce que vous avez
été
entendu?
De toute façon, Mohamed, aujourd'hui, je pense que l'histoire me donne raison.
C'est bloqué, le système est bloqué aujourd'hui.
Mais l'histoire me donne raison.
Okay.
On avait plus de possibilités à résoudre ce problème localement que de nous retrouver dans un système qui ne dit pas son nom. Maintenant, ceux qui veulent communiquer juste pour plaire, moi je ne suis pas un suiviste et je ne le ferai pour personne. Je pense que il y a Dieu, il y a ma conscience. Cette conscience aujourd'hui me dit que ceux qui sont morts, les camarades qui sont morts dans cette lutte-là, je prie le bon Dieu que demain,
parce que
je suis immortel,
oui.
Je suis convaincu que nous allons être interpellés et que les morts ne sont pas morts, comme le disait l'autre. Ce qui est évident, et nous serons au rendez-vous non seulement de l'histoire, mais surtout au rendez-vous de l'honneur. Parce que pour moi, c'est quand même très important aujourd'hui que cette transition puisse être l'une des dernières, sinon la dernière
transition du pays.
Voilà, du pays, parce que nous ne voulons plus d'une transition bâclée. Toutes les révolutions au Mali ont été bâclées. Aujourd'hui, il faut assainir, il faut aller à fond, à profondeur, pour que nous puissions, en tout cas, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, avoir des élus, en tout cas, qui sont là pour le peuple. Et qu'ils puissent rendre compte au fur et à mesure qui est plus de super maître, de super puissant et au niveau pouvoir politique, je vais dire.
Oui.
Mais qu'à cela ne tienne, j'estime aujourd'hui que, en tout cas, l'histoire m'a donné raison.
Oui, mais est-ce que si on vous contacterait, est-ce que vous pouvez rectifier le tir?
On peut.
Parce que pour le moment, on n'a pas de date. On n'a pas les cartes, parce qu'on dit que les cartes sont disponibles. Ils sont nombreux qui n'ont pas encore les cartes biométriques. Ils sont nombreux, on ne peut même pas les compter. Et ils sont nombreux aussi qui n'ont pas été enrôlés. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là, Jamel Bitar?
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est très simple. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Aujourd'hui, on a décrié les cardinaux. Nous sommes en train de répéter nos erreurs. Carte NINA égale carte biométrique quelque part, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas été enrôlés, on nous a fait comprendre comme quoi les mêmes informations qu'il y avait sur la carte NINA...
Ce sont les mêmes informations.
C'est les mêmes informations, ils vont les retrouver. Donc, on est aujourd'hui à la production des cartes. D'après ce que j'aurais entendu, entre autres, je ne suis pas dans le secret de Dieu, c'est à peu près 60 000 cartes qui peuvent produire journalièrement. Pour 8 à 10 millions de cartes qui devraient juste produire pour les élections. Donc, aujourd'hui, 8 à 10 millions de cartes à diviser par 60 000, vous allez convenir avec moi comme quoi il faut des mois et des mois. Ça, c'est pour la production. Maintenant, pour la distribution, ça va prendre combien de temps?
Donc, techniquement, ce n'est pas faisable. On ne pourra pas être dans les délais.
On ne peut pas être dans les délais. Maintenant, le gouvernement a raison de ne pas communiquer sur la nouvelle date. Parce qu'une nouvelle échéance qui viendrait encore à échouer n'est pas une bonne chose en soi. Donc, moi, je pense qu'il faut, de façon sereine, comptabiliser ce qui est là, qu'est-ce qu'il faut pour booster la production et surtout la distribution. Il faut que les cartes, ces cartes biométriques, aillent vers les Maliens plutôt que les Maliens aillent vers cette carte biométrique. C'est ça la technique. Aujourd'hui, il y avait, dans un passé récent, il y avait un engouement, mais aujourd'hui, vous n'avez plus cet engouement. Vous êtes d'accord avec moi?
Ok, Jamil Bitar, on va suivre cette actualité de près. Nous allons essayer de donner la parole aux téléspectateurs dans la dernière rubrique de l'émission, la rubrique questions directes des téléspectateurs. Donc, Jamil Bitar, nous allons entamer la dernière rubrique de l'émission, générique questions directes.
Bonsoir à tous, bonsoir Jamil Bitar. Moi, ma première question, c'est dans une de vos dernières interventions, vous avez déclaré que les temps sont durs avec le mois de Ramadan qui a été rude, ce qui est vrai d'ailleurs, et cette charité qui s'est pressentie chez tous les Maliens. J'aimerais savoir, au début de la transition avec ce gouvernement, M. Bitar nous parlait des partenaires, de ses partenaires. Est-ce que ces partenaires ne sont plus venus? Ou est-ce que la transition n'a pas voulu que ses partenaires viennent? Ou est-ce que ses partenaires sont venus, mais on n'a pas vu leur passage, on n'a pas ressenti leur effort? Ou est-ce que ses partenaires n'ont finalement pas voulu venir? Ma deuxième question, c'est vous êtes un homme politique. Et vous avez l'intention de participer aux élections présidentielles. Est-ce que vous pensez réellement les gagner? Si oui, comment? Ou bien pensez-vous donner votre voix, comme beaucoup le font, à un autre candidat qui sera plus proche de la victoire?
Bonjour, Samba Gassama. Ma question pour M. Bitar est la suivante. M. Bitar, vous passez votre temps à dire qu'il faut écarter les politiques qui ont participé à la gestion du pays, de près ou de loin. Pourtant, non seulement on se souvient de vous à l'époque d'ATT et de tout ce que vous avez fait, notamment pour qu'il fasse un troisième mandat, et en plus de ça, on se souvient de vous le jour de la victoire, de la deuxième victoire du président Ibeka en 2018, et où vous avez même dansé pour fêter ça. Ne faites-vous pas partie de ces politiques que vous dénoncez?
Bonsoir, Monsieur Bitar. J'ai quelques questions à vous poser. D'abord, certains s'inquiètent déjà quant à la tenue des élections dans les délais indiqués. Et j'aimerais savoir votre position sur cette question. Aussi, les magistrats se livrent à des jets d'accusation à travers des communiqués sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Salut. J'ai deux questions à poser à Jamil Bitar, l'une sur le thème d'aujourd'hui et l'autre une question beaucoup plus personnelle. Qu'en penses-tu du gouvernement actuel, vu que l'essentiel du gouvernement n'arrive pas à évoluer, sauf le ministre de la Défense, Sadio Camara, fait évoluer son département. Les autres entités, on a tendance à penser qu'ils stagnent. Et l'ensemble du gouvernement est basé sur les résultats du ministère de la Défense. Qu'en pense-t-il? Et selon lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer cette situation? Faire en sorte que le gouvernement ne se limite pas au ministère de la Défense et que les autres ministères puissent faire des progrès, nous donner des résultats. Et la seconde question est par rapport à Jamil Bitar et ses activités. On sait tous qu'il est le promoteur, il était le promoteur de Bitar Trans. Actuellement, la ville de Bamako, par exemple, est très embourbée de voitures. Pense-t-il pouvoir mettre une solution de transport à moyen ou à court terme pour pouvoir désengorger la ville de Bamako comme on le fait dans les plus grandes villes au monde? Sa proposition sera la bienvenue.
Restez là, les questions directes hein, des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous avez la parole pour vous éléments
de
réponse.
De très bonnes questions. Okay. Et tout le monde reconnaît que le mois de Ramadan cette année n'a pas été facile. Et généralement, le mois de Ramadan n'est pas facile. Mais cette année, il y avait une touche tout à fait particulière. Et le gouvernement a fait ce qu'il pouvait. C'est des mesures classiques qu'on connaît hein. En termes d'exonération sur les denrées de première nécessité, en termes de contrôle sur les différents marchés, etc. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis toujours qu'il y a 12 mois dans l'année. Les efforts ne doivent pas être concentrés sur le seul mois de Ramadan parce que la vie continue. Et cette cherté de la vie est liée certainement au pouvoir d'achat des Maliens. Certainement, le gouvernement ou certains diront oui, les salaires ont augmenté, pratiquement doublé, etc. Mais entre autres, tout ce que nous importons aujourd'hui, les prix ont pris de l'ascenseur, comme on le dit. Et à l'achat, les produits sont chers. Le prix du transport a évolué entre temps. Donc, les prix de revient de ces denrées ou de ces marchandises localement ont pris de l'ascenseur. Et à ce niveau, comparativement au pouvoir d'achat même amélioré en termes de salaire, ça ne peut pas répondre justement à la préoccupation ou sinon au problème des Maliens parce que avec 100 000 francs de salaire avant, ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, avec 300 000 francs, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on en a tous conscience. Mais pourquoi ces problèmes perdurent? Parce que nous ne produisons pas. Le Malien n'est pas au travail. Nous pouvons tout imaginer. Et tant que nous n'allons pas justement valoriser nos ressources locales, que nous allons produire à niveau... C'est inimaginable aujourd'hui qu'on importe du riz, c'est inimaginable qu'on importe du sucre, etc., etc. Mais après toutes ces années d'indépendance, après tout ce que nous avions comme ressources naturelles que Dieu nous a gratifiées, mais vous savez, quelque part, nous sommes tous fautifs. Moi, je le dis, ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas la matière grise qui manque. Mais quelque part, parce qu'il y a des mauvaises politiques, c'est-à-dire que les choix économiques n'ont jamais été ce que ça devrait être. Donc, moi, je dis quelque part que ce cycle infernal, il faudrait mettre fin. Et mettre fin, pour moi, c'est de mettre le million au travail. C'était mon slogan. Maintenant, concernant les partenaires, moi, je pense que Au fait, c'est un faux débat. J'ai dit qu'à travers le monde, et je le répète, je le maintiens, moi j'ai un bon carnet d'adresses, mais je n'ai jamais été sollicité. C'est des partenaires qui font, en tout cas, des investissements dans le cadre étatique. Parce que l'État...
D'État à État.
D'État à l'État. Ou de partenaire à État.
Okay.
Pas de partenaire à privé. Si c'était de partenaire à privé, nous n'en serons pas là.
Okay.
Mais moi, je n'ai aucun mandat et je ne sers pas le gouvernement. Moi, je dis, je ne suis dans aucun poste aujourd'hui me permettant, en tout cas, de faire venir ces investisseurs. J'ai, pendant mon parcours professionnel, j'ai un très bon carnet d'adresses. Il y a des moments où je suis sollicité par des grosses entreprises, mais je les mets en rapport direct, souvent, avec l'État, avec les départements concernés. Mais le reste, ce n'est pas, excusez-moi du terme, quelque part, je n'ai pas pion parce que je ne suis pas décideur. Donc, et c'est un faux débat.
Donc vous voulez que les Maliens comprennent ça?
Il faut que les Maliens comprennent ça. C'est un faux débat à chaque fois.
Oui,
les partenaires de Bitar? Moi, j'en ai.
Okay.
J'en ai. Et c'est pas fortuit. J'ai géré la chambre de commerce pendant 10 ans. Et c'est pas pour se vanter. J'ai un très bon carnet d'adresses. À travers le monde, je connais des gens, je connais des structures. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que notre voix soit entendue, écoutée et avec attention. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des possibilités, nous les mettons en rapport direct avec les départements concernés. Donc, ça c'est... Vous savez, quand on est à ce niveau, moi, le ridicule ne tue pas. Oui, où sont tes partenaires? Où sont tes partenaires? Ce n'est pas une question en soi. Maintenant, concernant... ma participation à l'élection présidentielle.
Moi, j'ai dit. Est-ce que vous allez peut-être reporter vos voix pour le candidat le mieux placé?
Mais dites-moi, on n'est pas aux élections, à ce que je sache. Nous, nous voulons d'abord la réussite de la transition.
Okay.
Notre mission première aujourd'hui, comment réussir cette transition? Maintenant, aux Maliens de faire leur choix. Je ne dis pas que. Comme on le dit en bon bambara, nous on a temba de ona oui tiens, mais nous on a temba horreur de ona oui kore. Et le pouvoir est divin pour moi. Moi je dis que quelque part, si ça doit arriver, ça va arriver. Ce n'est pas en mobilisant, c'est pas en ayant plus de moyens financiers, c'est pas en ayant les meilleures idées possibles, c'est pas soi-disant. Le pouvoir est le pouvoir, et moi je ne suis pas obsédé du pouvoir.
Okay.
Je ne suis pas un obsédé et je pense que je crois au destin. La voie royale, c'est Dieu qui décide.
Okay.
Et si je suis fait pour ça, ça va arriver. Mais si je ne le suis pas, peut-être que c'est ma destinée et je prendrai cette destinée comme ça se devrait.
Okay.
Maintenant, écarter les politiques. À la base, moi, je ne suis pas ce politique qui vit au dépens de la politique. Je ne suis pas un pensionnaire de la politique, comme on le dit, entre autres, je ne l'ai jamais été. À la base, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme de terrain, je suis un homme d'affaires, et paix à son âme, ATT, je l'ai aidé, et si je dis je l'ai aidé, j'ai participé quelque part à certaines activités, et c'est clair. Je n'ai jamais été nommé. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, jamais de mémoire, ATT n'a pris un papier pour me nommer ministre, président du Conseil économique, social et culturel, etc. Non, moi, je n'ai jamais été nommé. Tous les postes que j'ai eus dans la vie, c'est à travers des élections. Et ces élections, j'ai eu des passages au niveau de la Chambre de commerce. Les commerçants en sont reconnaissants aujourd'hui. Et quelque part, il y a un regret même qui s'est posé dans certains endroits. Vous pouvez faire peut-être un sondage au niveau des différents marchés, dans les industries, etc. J'ai fait ce que je pouvais.
Okay.
Mais malheureusement, quand on me voit, moi je ne sers pas quelqu'un, je sers mon pays. Maintenant, concernant une histoire de troisième mandat, vous le dites, nulle part, dans aucune de mes interventions, je n'ai parlé du troisième mandat d'ATT. L'intéressé même n'en avait pas fait cas. On ne peut pas être royaliste, plus royaliste que le roi. Concernant la fameuse décoration.
En or, là.
Oui, oui. Moi, j'étais le président. J'étais le président.
J'étais l'initiateur principal.
J'étais le. Le poisson, c'est toujours la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Mais, il y avait trois chambres.
Okay.
En réalité, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture et la chambre des métiers.
Ouais.
Nous avions décidé ensemble et moi, j'étais le président de tous.
Ouais.
Donc, c'est des signes de reconnaissance. Okay. Nous sommes habitués à quoi au Mali? C'est après votre mort, on se souvient que X a travaillé pour le pays. Après, on vient, on vous décore, on vous donne une décoration, le clairon sur votre dépouille, etc. Mais nous avions dit que en termes de réforme, les agriculteurs, je veux dire les producteurs agricoles, ils ont dit qu'il y a eu cette fameuse programmation, la loi d'orientation agricole. Au niveau du commerce et des industries, on a eu, nous aussi, nos etc. Les artisans ont dit, en termes de réforme, en tout cas, nous, on était satisfaits de ce qui avait été fait.
Okay.
Nous avions voulu, en signe de reconnaissance, faire cette décoration. Et il n'y a pas eu un copeck qui soit sorti, ni de la caisse de la chambre de commerce, ni de la chambre des métiers, ni de la chambre des... Et c'est les opérateurs privés qui ont contribué. Et la liste est disponible.
Okay.
Qui a donné quoi? Qui a fait quoi?
Vous avez encore la liste?
Oui, moi j'ai encore la liste pour la mémoire, pour l'histoire.
Il y a combien de kilos d'or?
Un kilo.
Un kilo, c'est beaucoup, hein?
Un kilo, c'est...
Un kilo, voilà.
Bon, un kilo, ça dépend.
Hein? À l'époque, si vous devez estimer...
Excusez-moi.
Oui.
À l'époque,
oui.
Ça allait faire quoi? Une trentaine de millions pour plus de 2 millions d'opérateurs économiques. Faites-vous le calcul.
Oui.
Ça ne ferait même pas 1000 francs par personne.
Oui. Mais c'était beaucoup, hein? Le président... Et vous a remercié, mais on se dit que la décoration en question se trouve aujourd'hui au musée.
Oui, c'est pour la mémoire, c'est pour l'histoire. Oui,
okay.
Il m'a dit, si je l'amène chez moi à la maison, ce serait un bijou de famille.
Okay.
Mais par contre, si c'est au musée, les générations futures qui vont venir, ils sauront que...
Est-ce que vous avez fait un tour au musée pour savoir si votre décoration est toujours là-bas? Parce que c'est de l'or quand même.
Ça fait longtemps que je ne suis pas passé,
ouais.
Mais je pense que...
Ouais. La décoration est bien gardée,
ça doit être bien gardé à ce niveau.
Okay.
Maintenant,
il n'était pas question pour vous de le soutenir, pour le dire de se maintenir au pouvoir? Non,
mais,
c'était pas une visée électoraliste.
L'intéressé même ne s'était pas prononcé par rapport...
Même si on lui prêtait quand même, hein,
oui, mais vous savez,
lui prêtait l'intention.
Vous savez, on dit toujours... Et quand c'est dans votre ventre, on ne peut pas vous prendre avec.
Ouais, ouais.
Mais il suffisait qu'ils disent qu'ils voulaient un troisième mandat.
Ouais.
Bon, on allait voir.
Okay.
Et à l'époque, moi-même, j'étais pressenti, j'étais candidat.
Ouais, ouais.
Et moi-même, je voulais briguer cette présidence.
Okay.
Comment ça allait se faire avec cette donne à l'époque?
D'accord.
Maintenant, concernant Ibeka...
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Ibeka Djamé Bitar? Vous n'en avez jamais parlé, hein? Pourtant vous appréciez beaucoup l'homme au début.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé en réalité.
Oui. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, quoi.
Oui.
Vous aviez du coup allé, à un moment, vous êtes allé au niveau du M5-RFP, contester la gouvernance, mais ce qui s'est réellement passé entre vous, on ne le sait pas. C'est à partir de quel moment il y a eu la cassure?
Il n'y a jamais eu, en réalité, de symbiose.
Donc c'était de l'apparence juste que vous entretenez?
Non, c'était... on avait eu une négociation avec Ibeka.
Ok.
Le retour d'ATT, dans l'honneur et dans la dignité, contre notre soutien.
Ok.
Je l'ai monnayé, pas à mon nom, mais au nom du regroupement à l'époque que je gérais, que je dirigeais.
Okay.
Donc cet entretien, et Ibeka nous avait promis de changer de gouvernance. Mais on est allé de mal en pire. Et moi, je ne suis pas signataire de EPM.
Okay.
Il faut que les gens comprennent. Et c'est pour l'histoire également.
Okay.
Et Ibeka, quand il venait au pouvoir, j'étais président du Conseil économique, social et culturel.
Ouais.
Et c'est Ibeka qui m'a fait partir du Conseil.
Okay.
Et à l'époque, c'était Moussa Mara, le Premier ministre. Et c'est Ben Barka qui était aux manœuvres. Malgré que je sois élu par justement les industriels du Mali, ils savaient que j'allais briguer un deuxième mandat.
Okay.
Et ils ont tripatué afin que je ne me retrouve même pas sur la liste parce que j'allais gagner encore une deuxième fois.
Okay.
Donc, qu'à cela ne tienne, la vie continue. Mais ce qui est sûr, Ibeka, ni de près ni de loin, Ibeka a même dit à l'ORTM, je parle sous le contrôle de certains aînés, qu'il ne voulait plus, il voulait jamais me voir en gros plan à la télé.
Il a dit ça déjà à l'ORTM.
Oui.
Qu'il ne voulait pas vous voir dans les images.
Les images.
Ok, pourquoi?
Eh bien, parce qu'il était amer. Parce que.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait qu'il n'a pas aimé?
Vous savez, en 2013.
Ouais.
J'étais parmi les rares soutiens de Soumaïla au deuxième tour.
Okay.
J'étais pratiquement comme son directeur de campagne au deuxième tour.
En 2013.
En 2013.
Okay.
Et compte tenu peut-être des relations que j'avais avec Ibeka, il n'a jamais gobé, il n'a jamais pardonné parce qu'on a quand même des accointances parentales par-ci, par-là.
Okay.
Mais qu'à cela ne tienne, moi, je ne connais pas la porte d'Ibeka, je le répète à qui veut l'entendre. Je suis rentré dans cette famille une seule fois pendant tout son mandat présidentiel. Et la seule fois que je suis rentré là-bas, c'était parce que, quelque part, il m'avait fait conduire chez lui, notamment avec, justement, Moussa Timiné, pour me parler du retour de ATT. Et c'était la seule fois. Et moi, j'ai dit aux gens, je ne regrette rien. Parce que si Ibeka n'avait pas gagné ces élections, je serais comme la galette. Donc, moi, je suis un humain.
S'il n'avait pas gagné lesquelles élections?
Les élections, les dernières élections.
Là où
on m'a vu danser.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé? On vous a vu quand même.
Oui,
c'est quand vous êtes content, quand Bitar est content, il peut faire quelque
chose.
Parce que vous étiez quand même dans un élan d'emportement.
Oui, mais moi, je suis du genre.
Ceux qui vous connaissent,
je suis très émotif.
Ah, ok, ok.
Et
j'étais content de cette
victoire. Je suis de nature.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui aime gagner.
Vous avez l'esprit de la gagne.
Oui, j'ai l'esprit de la gagne. Je n'aime pas perdre dans la vie. Tous ceux qui me connaissent, quand je m'engage, c'est pour gagner.
Okay.
Quelles que soient les procédures, quelles que soient les méthodes, je suis né pour ça.
Okay.
I was born to win, d'après les Anglais.
D'accord.
Hein? Ok,
okay.
Donc, c'est un peu ça. Les gens...
Vous avez dansé d'ailleurs sous quel rythme hein, vous ne vous rappelez
plus? Je ne me souviens même pas.
Ok, d'accord. Mais Jamil Bitar, une dernière question voilà, sur ce passage-là. Vous l'avez soutenu en 2013?
Non,
vous ne l'avez pas soutenu en 2013, vous l'avez soutenu là. Comment vous avez trouvé un arrangement politique pour que les spectateurs comprennent pourquoi vous le souteniez en 2018? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Oui, mais je vous ai dit qu'il m'a convié.
Ah oui, le passage de ATT a changé un peu. Ok, donc tout est parti de là. D'accord. Parce qu'il est important que vous parliez pour que les téléspectateurs comprennent un peu le cheminement.
Et c'était un soutien électif.
Ok.
Qui n'était pas à monnaie.
Ok.
Et je défie qui veut le dire devant moi, qui a des preuves, comme quoi j'ai été impliqué dans une gestion quelconque d'Ibeka. Il peut le ramener sur...
Vous avez même dit que vous n'avez réussi aucun marché. Hein,
aucun marché sous Ibeka.
Sous leur Ibeka.
Voilà. Donc, il n'y a pas eu ce que certains peuvent penser de récompense ou de ceci, cela.
Okay.
Je n'ai jamais monnayé quoi que ce soit.
D'accord.
Et même cette transition, je dis à qui veut l'entendre.
Vous n'avez...
Je n'ai pas un copec de cette transition.
Okay. Vous n'avez rien demandé.
Je ne suis ni demandeur ni preneur.
Okay.
Parce que moi, je joue à la diplomatie populaire.
Okay.
la diplomatie du peuple.
Non, parce que les gens pensent
une procédure.
Vous les soutenez parce que tout simplement, vous avez aussi votre part, comme ils disent, hein, du gâteau. C'est ce que beaucoup de Maliens pensent.
Bon, j'aime bien le gâteau, surtout le gâteau au chocolat. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'eux, ils n'ont pas de gâteau pour moi.
Okay.
Et ce gâteau-là, c'est Dieu qui donne ce gâteau.
Ouais, ouais.
Parce que nous sommes des humains, il faut que les gens comprennent. Nous avons tous espoir que nous allons améliorer certaines conditions.
Ouais.
Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est pour mon peuple, c'est pas pour moi.
Ouais.
Maintenant, la tenue des élections dans le délai, c'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Clairement, ce soir, Benjamin Bétard,
mais
que les Maliens le comprennent.
Mais moi, je le dis à qui veut l'entendre. Si le contraire se produisait, qu'on arrive à tenir les élections dans ces échéances-là, je viendrai demander pardon au peuple malien.
Si on arrive à faire des élections, voilà.
Mais c'est pas possible. Déjà, on est parti de report de... Et ça, le référendum, les autres élections, on va les repousser autant que ça va venir. Ou sinon, décider juste de faire une élection présidentielle, un semblant d'élection, une élection bâclée. Et les Maliens n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. J'étais parmi les premiers à dire que pour cette transition, il fallait 5 ans. Mais on me prenait de fou. J'ai demandé de dissoudre la constitution. On me prenait de fou. J'ai demandé de dissoudre toutes les formations politiques. On me prenait de fou. C'est pas parce que je suis dans la politique que obligatoirement je vous parle de moi. Je ne fais pas l'exception parmi mes
certains
exceptions.
Certains pensent que si vous demandez la dissolution des partis politiques, parce que vous pensez que, c'est-à-dire si on, les partis politiques restent en l'état, vous, peut-être que vous n'avez pas cette force de frappe, peut-être pour vos ambitions présidentielles, par exemple.
Vous savez.
Et que vos têtes disent.
Vous savez, dans l'histoire du Mali, tous ceux qui sont devenus présidents, à part le président Alpha Omar Konaré, mais tous les autres, ce n'est pas les appareils politiques. A été un président sans parti. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Aujourd'hui, les militaires, successivement...
Ils restent des coups d'État, exceptionnellement.
C'est de Moussa. Mm-hmm. On commence par Moussa.
Oui.
Et après Atété, après Atété Bis, après...
Alpha Ibeka.
Ibeka.
Diankunda.
Oui. Ce n'était pas des questions forcément d'appareil. Donc, moi, je pense que l'histoire du Mali contemporain nous prouve à suffisance comme quoi ce n'est pas par crainte ou par peur.
Oui.
Maintenant, dire que les magistrats...
Les magistrats, voilà, ils sont aujourd'hui à couteau tiré. Est-ce que Bitar...
Moi, je déplore cette situation. J'en appelle,
c'est une première, on peut même dire que c'est une première.
Moi, j'en appelle à la retenue et surtout au dialogue entre frères ou je dirais confrères.
Oui.
Il faudrait que la raison, toute raison gardée, ils doivent pouvoir communiquer entre eux. Passer sur les médias, je pense que ça ne fait ni honneur au peuple malien, ni honneur à eux-mêmes.
Okay.
Parce que eux, en réalité, c'est des références pour nous. Quand nous avions des problèmes, c'est vers eux que nous
les gardiens de la loi, quand même.
Ils sont quand même les gardiens de la loi.
Oui.
Donc, quelque part, je dis que...
Il faut qu'ils jouent bas la terre.
Bas la terre.
Pour l'intérêt du pays, et pour l'image de la magistrature.
Merci.
Oui, Jamil Bitar, on est pratiquement... Si vous avez... Les questions sont finies. Vous voyez encore une autre question.
Non, il parle justement de... du ministre de la Défense
vous l'avez dit que c'était l'un des meilleurs ministres ainsi à choisir
si
vous,
à noter,
voici, vous l'avez dit ici, on se rappelle vous avez dit que s'il y a un homme qui vous a marqué dans cette transition, c'est bien le Sadio Karama, ministre
il parle peu.
Vous avez dit, il a un bilan. Maintenant, est-ce que l'interlocuteur dit, l'interprète dit, est-ce que c'est seulement à travers ce seul ministère de la Défense qu'il faut parler du gouvernement, parce que sinon pour le reste là,
oui mais il est partie intégrante du gouvernement.
Il est le seul.
Maintenant, le premier axe même de la transition, c'était quoi? C'était la sécurité.
Oui.
Bon, je pense que l'effort commun, l'effort commun, c'est focalisé en tout cas sur ce ministère. Et je pense qu'il joue pleinement son rôle.
Okay.
Et chapeau vraiment à Sadio.
Oui, Sadio, vous l'aimez bien. Voilà, vous l'aimez bien. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré?
La seule fois qu'on s'est rencontré, c'était lors de la chute de Bandao.
Ah, ok, ok.
Fameuse nuit où on est monté à Kati nos arrangements successifs. Moi, je ne suis pas un rat de porte, comme on dit. Et j'estime que tout ce qui doit m'arriver...
Bien naturellement.
Et je n'ai pas...
Vous n'êtes pas un courtisan aussi?
Non, je ne suis pas un courtisan.
Okay.
Et l'un s'en fout, les gens d'ATT, je vais même dire de Moussa Traoré à maintenant, parce que j'ai étudié avec les enfants de Moussa au lycée Asker Mohamed. Donc, c'est vous dire quelque part que je ne suis pas dans... Je ne suis pas là à cirer les souliers, Dieu merci. Maintenant, les activités, concernant le transport. Moi, j'ai des partenaires.
La relance, voilà. Vous pouvez avoir un projet pour désengorger carrément? On a des bouchons quand même.
Le projet de tramway, il dort dans les tiroirs.
Okay.
On peut... le tramway, là,
c'est possible.
C'est possible. C'est un projet qui est vivant. Et les engins à trois roues, je ne parle pas des katakatani de façon, mais ce qui est venant, il y a beaucoup. L'intéressé peut prendre attache avec moi. J'ai quand même préparé tout un dossier par rapport à ça, parce que moi j'ai un projet de société. Et je l'ai élaboré pendant plus d'une décennie. J'ai travaillé sur des sujets pointus, même relier les différentes capitales, que ce soit Conakry à Bamako par la voie ferroviaire, Bamako à Ouaga, à Abidjan, etc. etc. Moi, j'ai travaillé sur ça. Et nous avions des partenaires comme China Rail qui sont prêts
à financer les projets.
Oui,
d'accord.
Vous savez, ce n'est pas des paroles, mais l'État reste l'État. Et c'est la volonté gouvernementale qui peut nous amener dans de tels succès.
Oui, sinon, c'est qu'aujourd'hui, Dakar, Abidjan sont quand même en train de ressembler à des villes, des capitales africaines modernes. Au moment où nous, ce sont vraiment les katakatani qui font le décor dans la capitale. Donc, il faut y songer. Et puis, on va prier pour le projet. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre appel pour les Maliennes, les Maliens de l'intérieur, les Maliens de la diaspora qui nous regardent ce soir. Une heure d'émission, ça passe vite.
L'appel, c'est un appel à l'unité, à la solidarité et surtout au don de soi. C'est ça le plus important. Cette transition est la transition de tous les Maliens, sans exclusive. Mais nous voulons que chacun de nous comprenne aujourd'hui que la situation, elle est critique, elle est difficile. Nous avons des ennemis de partout et que quelque part, nous devons être plus entreprenants, nous devons avoir plus de matière afin que nous puissions justement transcender ces moments difficiles. De toute façon, j'ai dit aux politiques, il n'est jamais trop tard. Nelson Mandela est devenu président de...
L'ancien arc-en-ciel de l'Afrique du Sud, après 27 ans. Pratiquement vieux quand même.
Donc, on ne vieillit pas par le physique, on vieillit surtout par le mental. Et je prie le bon Dieu que nous ayons un bon mental et que les Maliens puissent se retrouver. Et les problèmes maliens ne seront résolus que par les Maliens. Il faudrait que nous en prenions conscience et que nous œuvrons dans cette direction.
Okay. Les problèmes des Maliens ne seront résolus que par des Maliens. Ce sont là les derniers mots de notre invité Jamil Bitar, porte-parole du M5RF. Jamil Bitar, merci. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Bon vent pour vos actions politiques.
Merci.
Bon vent. Et puis bon vent à la transition aussi. Et puis venez ici quand vous le voulez. C'est la maison, c'est la famille. Nous, de notre part, nous allons aussi jouer notre partition pour le développement et la construction du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir. Thank you.
en toute liberté.